Arcagna, Jacques Lavergne, bonjour. Arcagna, l'émission résiliente. C'est une triste chose de songer que la nature nous parle et que le genre humain ne l'écoute pas. Victor Hugo, au XIXe siècle, déjà. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. L'émission Arcagna accueille des amis et des partenaires travaillant sur des problématiques similaires ou connexes. Dans ce cadre, tous les mois, nous diffusons un épisode du podcast Nous sommes forêts, réalisé par Almaz Vaglio et Charles-Maxence Laillé. Nous sommes forêts, c'est le rendez-vous sonore avec et pour les arbres, un podcast qui donne la parole aux gardiens et aux défenseurs des forêts. Comme l'écrit Charles-Maxence Laillé, et je le cite, « L'on entend le bruit de l'arbre qui tombe, mais jamais celui des forêts qui poussent. » Fin de citation. Alors tendez l'oreille et écoutons-les.
Nous sommes forêts.
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 Ce podcast donne la parole aux gardiens et aux défenseurs des forêts.
Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Amandine Hersant, la directrice générale de l'ONG Planète Urgence, qui œuvre à travers des projets de reforestation en Afrique et en Asie. Elle, que l'on considère comme l'une des dirigeantes de référence dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, a aussi fait le choix, dans sa vie, de devenir gardienne d'une parcelle de forêt, ici, en France.
Je t'emmène ?
Oui.
Allez, je t'emmène.
On a de la chance en plus, parce que la pluie est largement tombée, mais pas maintenant.
C'est vrai. Là, on a un peu les lumières du soir en plus, c'est beau.
Et puis les oiseaux aussi.
Et les oiseaux. Tout à l'heure, j'entendais un grimpeau. Et tu vas entendre le rouge-gorge, on l'entend partout. Lui. Il chante à qui mieux mieux. Il y a des roitelets aussi qui sont arrivés. Et on entend souvent des piques et pêches.
Ah ouais ?
Ouais. On va peut-être entendre taper sur les arbres tout à l'heure, je sais pas.
Mais tu connaissais déjà les oiseaux, l'ornithologie avant, ou c'est via cette nature ?
Ben, j'ai redécouvert ce que mon papa adore les oiseaux. Il les observe. Quand j'étais petite, on avait toujours un livre devant la fenêtre. Et on allait écouter les oiseaux la nuit. On allait écouter la chouette-ulotte.
D'accord.
Et j'avoue qu'après, la vie t'emmène et tu te retrouves en ville et tu oublies un peu tout ça. Et finalement, finalement, tu te rends compte que c'est ça un peu l'essentiel, tu les écoutes.
C'est histoire de les entendre sans le bruit de nos pas.
Je pensais que tu avais vu un chevreuil.
Non.
Souvent, on s'arrête comme ça quand on voit du chevreuil. Tu es tellement fasciné. Il y a une semaine, je me baladais en forêt et on a vu 30 cerfs.
Waouh.
T'imagines ?
Ah oui, la harde.
Incroyable. Je pensais pas que je verrais ça un jour dans ma vie. Et au début, on a vu un, deux. Tu vois
les bois.
Les bois. Et tu dis, mais attends, ils sont hyper nombreux. Tu t'avances un peu. Ils te sentent pas parce que t'es à contre-vent. Et là, tu te rends compte qu'il y a une horde complète. Ouais, incroyable, incroyable. C'est un peu les cadeaux de la nature, quoi.
Alors Amandine, justement, d'être ici avec toi, c'est un peu un cadeau dans cette forêt. Parce qu'en fait, elle a la particularité d'être ta forêt en l'espèce. Tu peux nous dire où nous sommes, géographiquement peut-être déjà d'abord ?
Ouais, alors on est dans la Sarthe. mal connu des Français et pourtant un lieu incroyable. On est dans la région sartoise entre le Lude et Vasse. Alors je ne suis pas sûre que ça vous parle, il y a un magnifique château au Lude que vous pouvez aller visiter.
En gros, c'est entre Le Mans et Tours.
Entre Le Mans, Tours et Angers, ouais, c'est vraiment au milieu du triangle. Donc on est dans les Pays de la Loire.
Alors je le dis parce que ça ne se voit pas forcément, mais tu as les yeux qui pétillent de fierté quand même. Hein.
Ah ouais? Non, j'adore cet endroit. Je ne sais pas si je suis fière ou si je suis juste...
Heureuse.
Heureuse, ouais. Parce que j'ai pas du tout l'impression de... Quand tu disais cette forêt, elle t'appartient, mais j'ai pas du tout cette impression-là. Pour moi, la forêt, elle était là bien avant moi, elle sera là bien après moi. Moi, je suis juste sur un tout petit temps à ses côtés et je m'émerveille, quoi. Tu vois? Je crois qu'on est propriétaire de rien dans la vie, de toute façon. Mmh. On est juste propriétaire d'un instant et d'en profiter, quoi.
Est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce que ce bois, cette forêt, elle est comment par rapport à ce qu'il y a autour?
Ouais, alors on est sur une forêt, sur un sol qui est assez sableux. Ça veut dire que quand il pleut, l'eau, elle rentre vite. Mais par contre, c'est une zone où il ne pleut pas énormément. Je t'enverrai tout à l'heure voir l'eau qui coule, mais elle coule à peu près depuis décembre.
D'accord.
Donc on est content parce que ça a été ultra sec, on a vécu des sécheresses très fortes. Et ici, on est sur une forêt assez mélangée. On a une partie où on a du feuillu, avec des chênes, des châtaigniers. On a des arbres qui vont avoir entre 20 et 120 ans à peu près. Mais on a aussi une partie de pins, des très grands pins qui ont été plantés là pour faire de la culture et pour les vendre, tu vois, derrière. Ça s'est un peu mélangé parce que ça n'a pas été géré comme ça. Tiens, viens, on va passer par là. J'aime bien cet endroit. Et c'est une zone où finalement on a différents étages. Regarde, tu vas voir là des arbustes, tu vas voir des petits plants qui se sont installés, qui vont essayer de grandir au milieu de tout ça.
Il y a des vestiges de remblais, de tumulus, de...
Ouais, en fait, quand les parcelles, à un moment, ont été marquées, ils ont fait des espèces de grandes buttes pour délimiter les parcelles. Et nous, il y a 11 hectares sur la zone, on va avoir une quinzaine de parcelles, donc c'est des tout petits morceaux. Il y en a qui sont plus grands, qui font 2 hectares, mais t'en as d'autres, c'est même pas un demi-hectare. Et donc à chaque fois, quand c'était séparé, ils faisaient ces buttes-là pour reconnaître... la taille des parcelles, et ça va être notamment utile pour les chasseurs, parce qu'il y a des chasseurs qui... il y a beaucoup de chasse dans le coin, et les chasseurs, ils vont aussi se repérer beaucoup avec ces buttes-là pour savoir s'ils ont l'autorisation de chasser par le propriétaire ou pas dans la zone. Pareil, quand on va prélever du bois, nous, ce qu'on fait pas du tout, mais ici, il y a beaucoup de propriétaires forestiers qui vont prélever, et du coup, ils peuvent savoir plus facilement ça, c'est chez moi ou c'est chez le voisin.
Alors là, tu as précisé quelque chose qui était intéressant, c'est le fait que tu comptais pas prélever du bois, où il n'y avait pas de prélèvement de bois ici. Est-ce que c'est parce que tu es dans une démarche de laisser en libre évolution, ou c'est plutôt parce que, entre ta vie parisienne, on va y revenir un petit peu au fur et à mesure de notre balade ensemble, entre ta vie parisienne et ta vie ici, t'en as pas trop le temps?
Alors c'est pas une question de temps, parce que quand tu veux... avoir une démarche un peu plus commerciale, de rentabilité de ta forêt, souvent tu fais faire à des gens qui vont être des forestiers de métier, etc. Nous, c'est plutôt une démarche personnelle, où on se dit que cette forêt-là, elle a le droit de vivre par elle-même, et qu'on n'est pas forcément là pour la guider. On pourrait faire un peu de sylviculture mélangée à couvert continu, c'est un format de gestion forestière où tu vas accompagner la forêt pour pouvoir prélever régulièrement quelques arbres, et surtout laisser de la place pour d'autres pour grandir, etc. Là, pour le coup, c'est plutôt une question de temps et de financement, parce que ça nous demanderait d'intervenir un peu plus. Mais en soi, la forêt ici, en tout cas, n'a pas besoin d'être gérée de façon régulière. Il y aura juste quelques prélèvements à faire, tu vois, sur cette zone-là. C'est très dense en pins, par exemple. Mais ils ont du mal à grandir parce qu'ils sont trop serrés les uns à côté des autres. Donc ils vont faire du...
Ils vont monter vers le ciel, vers le firmament.
Exactement, et ils manquent de lumière.
Et ils sont sensibles au coup de vent.
Exactement. Donc là, on pourrait gérer un petit peu plus et faire un peu de coupe pour les aider à bien grandir. Nous, ce qu'on a envie de faire surtout, c'est que cette zone, on aimerait bien qu'elle redevienne une zone de feuillus, qui était son état initial. Après, le pin peut rester, mais peut-être en moins grande quantité. Et regarde sur la droite, tu vas avoir plein d'arbres morts. Et ça, nous, on va absolument le laisser, parce que quand tu as des arbres morts, tu vas avoir une multitude de microfaune qui va s'installer. Et c'est très bon pour le sol de laisser aussi l'arbre revenir dans la terre.
Vous êtes gardien de 11 hectares de forêt, d'arbres. Comment tu es arrivé ici? Comment vous êtes arrivé ici?
Je sais pas trop. Probablement parce que ma famille, elle est autour d'ici, pas très très loin. Et puis avec mon mari, moi j'ai fait un changement de vie assez important à un moment, en me disant j'ai envie de revenir aux racines de ce qui est essentiel pour moi, et notamment la forêt. Et donc je l'ai fait pour ma vie professionnelle, mais aussi en parallèle pour ma vie personnelle. Et on a eu un coup de cœur pour cet endroit quand on est arrivé. Vraiment, on s'est senti bien. Enfin, je sais pas comment tu te sens, mais...
Ah oui, oui.
Moi, cet endroit...
Ce qui est tout d'abord frappant, c'est de voir la diversité des bois, quoi. Ouais. Entre des jeunes, des plus anciens, des plus petits qui sont en train de pousser. Enfin, vraiment... Il y a tous les âges, quoi.
Il y a tous les âges. Il y a tous les âges. Il y a aussi des grands espaces. Tu as des zones humides où tu as vraiment des salamandres que tu vas croiser, tu vois, au petit matin ou tard le soir.
On voit que le sol est quand même vachement préservé. Hein.
Ouais, il est très dense. Il y a beaucoup de bois. Tu vois, tu sens que ça n'a pas été fait pour la production et pour... c'est resté vraiment une forêt, quoi. Une vraie forêt. Que tu as plusieurs définitions de la forêt. Tu as la forêt FAO avec des chiffres qui te disent à partir du moment où tu as plus de, je crois, 0,5 hectares de couvert forestier, une hauteur spécifique, etc. C'est une forêt. Mais en fait, ça peut être aussi un champ d'arbres où c'est que la même essence. Nous, ici, c'est pas le cas. Ici, tu as une telle diversité. Ça sent bon. Ça sent bon le humus. Tu as plein d'espèces qui se croisent.
Et puis là, c'est vrai que comme on est là aussi, après la pluie, les effluves remontent d'autant plus, quoi.
Et puis t'as le bruit des feuilles qui craquent. J'adore. Là, on va arriver sur une zone un peu plus humide. Les espèces sont très différentes. On retrouve des orchidées sauvages qui sont assez rares.
Faut vraiment se faufiler. Hein.
Ça va aller ?
Très bien.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, rien n'a été travaillé par l'homme ici. T'as plein d'arbres au sol, t'as de la mousse. Là-dedans, t'as des millions de tardigrades, ces petits oursons d'eau qui doivent faire leur vie. Ce qui est assez rigolo sur cette zone-là, je sais pas ce qui s'est passé spécifiquement, mais t'as plein d'arbres qui sont dédoublés. Oh, regarde là, ils sont à 4 sur le même pied. Donc probablement à un moment t'as eu une intervention humaine, il y a eu des coupes qui ont été faites, et puis il y a très longtemps, parce que là ils sont massifs. Hein. Là ils ont une bonne centaine d'années. On est sur du chêne surtout, dans cette zone-là. On a beaucoup de mousse aussi, donc t'as des couleurs au petit matin qui sont superbes.
Alors peut-être avant qu'on reprenne la marche, tu l'évoquais, il y a une relation vraiment professionnelle et personnelle avec cette forêt. Je t'ai rencontré à Paris en tant que directrice, en tant que responsable d'une ONG qui est impliquée dans de nombreux projets de reforestation à travers le monde, en Amérique latine, en Afrique, en Indonésie. Peux-tu nous en dire plus, et aussi le lien que ça fait en toi par rapport à ici ?
Alors oui, je suis la dirigeante de Planète Urgence. C'est une ONG qui est bien plus vieille que le fait que j'y travaille. Elle a près de 25 ans. Elle a commencé à intervenir surtout sur du soutien des acteurs locaux qui travaillaient, donc il y avait beaucoup de volontariat. Et on a toujours aujourd'hui des volontaires qui partent avec nous, notamment des volontaires d'entreprise, mais aussi des jeunes. Et cette ONG, elle a fait un gros changement de perspective en 2006, parce qu'il y a eu des tsunamis en Indonésie. C'était une zone sur laquelle l'équipe travaillait. Et en fait, ils avaient beau avoir renforcé les capacités des ONG et travailler avec les humains se sont fait happer par la vague parce que les mangroves avaient été coupées. Et là, ils se sont dit, il n'y a plus de mangroves, donc il n'y a plus d'humains. Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse différemment sur nos projets de développement et qu'on intègre vraiment la protection des humains et de leurs écosystèmes. Donc ça a été le début de projets autour de la restauration des mangroves, la restauration des forêts. Aujourd'hui, on est présent effectivement sur les trois grands bassins, là où c'est urgent d'agir. Et on essaye dans chaque zone d'intervention de recréer le lien entre la forêt et les humains qui y vivent. Parce que ce lien-là, parfois, il est perdu. Parfois, pour des raisons économiques, il va être perdu. Or, on croit que si on arrive à réconcilier un peu ces deux mondes, on arrivera à avoir des territoires beaucoup plus durables, beaucoup plus adaptés aussi au changement climatique. Et ça fonctionne. Donc ouais, il y a un vrai lien entre ce qu'on voit ici, où tu as une biodiversité qu'on entend, qu'on peut voir parfois quand on a de la chance. Les humains qui sont à côté, qui peuvent venir ramasser des champignons.
Et puis j'ai aussi le lien entre la zone humide qu'on s'apprête à découvrir et puis les zones humides des mangroves, hein, qui ouais. sont un peu à l'origine de la réinvention de la raison d'être de Planète Urgence.
Ouais.
Et par rapport au lien alors qu'il y a entre Planète Urgence, Paris, les Indes. Je me souviens, enfin, il y a quelques semaines, lorsque je préparais ce rendez-vous avec toi, j'avais eu l'information que tu étais en Indonésie, en train d'être au plus près de certains chantiers locaux et des équipes locales hein,
ouais.
Sur place. Quel lien fais-tu entre ce travail, cet engagement professionnel, et qui est un engagement réel par rapport à la planète, et aussi cette décision, ce choix de s'impliquer, de s'investir ici, dans ces 11 hectares, ici, dans la Sarthe?
Bah, je pense qu'on est tous des hommes, des femmes, on est cohérents. Tu vois, si on fait un choix quelque part, il faut que ça nous guide dans tous nos aspects de la vie. Pour moi, c'est juste logique. Je me pose même pas la question du lien. Je suis une protectrice des forêts, je suis une amoureuse de la nature, que ça soit professionnellement ou personnellement. Et j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité d'aligner tout ça. Je suis émerveillée par ce que je vois au sein d'une mangrove. Là, j'ai croisé des singes nasiques. C'est les singes avec les gros nez. Et on fait une étude sur le singe nasique sur une zone où on travaille, parce qu'en fait, il va manger et dormir à des endroits différents. Donc, il faut absolument garder ces corridors de biodiversité.
Et puis, du coup, ces excréments, les graines, enfin, tout ça, quoi.
Exactement. Donc, mon équipe est partie 15 jours avec des experts scientifiques pour pouvoir essayer de comprendre où étaient les zones d'habitation et le statut hein, de l'espèce sur cette zone-là, et essayer de travailler sur des corridors dans le futur, dans le projet. Tu vois, quand tu rencontres un singe nasique, t'es juste émerveillé. Je suis tout aussi émerveillée quand j'écoute un Rottweiler ici. Parce que ça nous rappelle au fait qu'on est une espèce parmi plusieurs millions d'espèces, et que chacun a le droit de vivre dignement dans son habitat, et que peut-être que notre rôle humain, c'est pas tant d'utiliser les ressources, d'abîmer parce qu'on se dit qu'on en a besoin, mais peut-être plus juste d'en être les gardiens.
Très bien, alors pendant qu'on va cheminer vers cette zone humide que tu veux nous montrer, nous faire entendre, comment ça se passe pour l'acquisition d'une forêt en France?
Alors je t'ai emmené dans les ronces, je suis désolée.
C'est pas grave, on va passer au travers.
Elles ont bien grandi depuis le mois dernier où je suis passée. Je pense que la pluie leur a donné un peu de baptême là. Comment ça se passe? Alors, notre intention initiale, c'était de réensauvager un écosystème. Réensauvager un écosystème, on se disait, on va partir sur...
on va passer la partie difficile et on reprend.
Donc comment ça se passe quand on veut acquérir une forêt en France? Alors nous, notre parcours, et peut-être qu'il y en a plein de différents, notre parcours c'est qu'on voulait réensauvager à l'origine une zone qui avait été abîmée avec des pesticides, avec ou alors une friche industrielle, etc., qui était nue. Et donc notre pari c'est de se dire on va travailler sur un espace et on va le laisser en fait se réensauvager. Avec, on appelle ça la régénération naturelle assistée, quand il reste encore une végétation que tu peux réactiver. Donc c'était notre premier objectif. Mais en France, c'est très très difficile d'acheter des terrains nus, parce qu'ils sont destinés en priorité à l'agriculture.
Oui, donc préemptés par la SAFER.
La SAFER,
les organismes
exactement.
Officiels.
Tout à fait. Donc on a mis un an et demi à chercher, et puis au bout d'un an et demi, par hasard, on est allé dans une forêt. Et une forêt qui était à visée de rachat pour être productive. Et on s'est dit, mais il y a peut-être aussi quelque chose à faire dans les forêts existantes pour qu'elles restent des forêts naturelles. Et du coup, on a changé le projet. Et puis, par hasard, sur le bon coin, on avait mis une alerte. Et puis, j'envoie les photos à mon mari. Je dis, tiens, regarde, ça a l'air incroyable. Et quand on y allait, on s'est dit, bon ben voilà, c'est ici.
Et la cabane était déjà là ou vous l'avez
construite? Ouais, non, c'est une cabane de chasse. Donc la cabane était déjà là. Et l'étang était aussi déjà là. Donc en fait, il y avait vraiment un lieu et de nature à conserver. Et puis on fait venir des écologues et tout ça.
Voilà,
ouais, exactement. Et l'autre jour, j'ai croisé un monsieur qui venait avec son panier. Et quand il m'a vu, il a pris peur. Parce que normalement, en France, t'as pas le droit d'aller sur les forêts privées. Hein. Il y a quand même la majeure partie des forêts françaises qui sont privées, sur lesquelles t'as pas le droit de te promener. Et donc, il me prend peur et il me dit je suis désolée, je sais, je devrais pas être là. Je dis, mais vous savez, la forêt, en fait, elle est à tout le monde. Il y a certains qui sont un peu gardiens, mais si vous êtes respectueux du lieu, si vous venez et que ça vous fait du bien, ben bienvenue. Et je pense que c'est important que ces forêts elles soient ouvertes. On avance ?
Oui.
Donc, tu vois, on voit pas très bien, mais ça, c'est des feuilles d'orchidées. Ça, c'est des feuilles d'orchidées. On a un écologue qui est venu ici.
Pour répertorier les espèces ?
Oui, pour nous aider à comprendre un peu la dynamique de l'écosystème.
On entend l'eau qui commence à se rapprocher.
Et alors, regarde.
Ah oui, une vraie zone humide, une vraie incroyable.
Et c'est la première fois que je la vois aussi pleine. Ah, c'est fou.
Waouh.
Ouais, là, il a tellement plu. C'est super. Le niveau des sources est encore très bas dans la Sarthe, malgré toutes les pluies qu'il y a eu depuis décembre.
Ah oui.
Ouais, ça met un temps fou à rentrer dans le sol. Donc, il faut s'en réjouir.
On a la lune derrière nous qui commence à nous éclairer.
Pleine lune, en plus. On va bientôt entendre les loups. Et donc là, on arrive, c'est du châtaignier plutôt par ici. Et en France, le châtaignier, il y en a beaucoup qui sont malades, donc tu vois des grosses taches sur les troncs.
Et donc ici aussi, ils sont malades.
Donc ici aussi, bon, ils sont pas à l'aune de la mort, mais ouais. Et je sais qu'il y en a qui sont en train de réintroduire du châtaignier asiatique. C'est une vraie question pour moi de est-ce qu'il faut réintroduire des espèces qui ne sont pas endémiques. J'étais très défavorable au démarrage en disant les espèces endémiques sont celles qui vont le mieux résister, qui connaissent bien le sol, qui sont bien adaptées, etc. Et en fait, avec le changement climatique, je suis en train de changer d'avis.
Mmh.
Il y a des formalités particulières par rapport à l'achat d'une forêt que vous avez dû, que vous avez découvert liée à cet achat. Et est-ce que depuis que vous êtes gardien de cette, de ces hectares, vous avez des obligations aussi que, qu'on attend de vous ou que vous avez découvert?
Question très pragmatique pour finir.
Ah, c'est pas la fin, je t'assure.
Ah, c'est pas la fin, d'accord. Il y a plusieurs réponses à ta question. Il y a une question d'assurance. Donc en tant que propriétaire, c'est bien qu'on puisse assurer cette forêt-là. Parce que si un promeneur vient s'y balader et que c'est pas une grosse branche qui tombe dessus, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un feu qui se met dans la forêt, on a eu des feux il n'y a pas longtemps, pas loin d'ici. Ah écoute, je vois tu là. Et t'as vu tous les autres oiseaux se sont tus, hein? T'as vu, ils sont partis se coucher. Donc il y a une partie assurance. Et puis après, il y a une partie plan simple de gestion que tu dois faire, mais c'est pour quand t'as plus de, je pense, 15 hectares, il faudrait vérifier, où tu dois être garant d'une façon de gérer ta forêt. Je pense que c'est intéressant parce que ça t'oblige à te poser la question de comment est-ce que je veux que cette forêt soit utilisée potentiellement. Avec certains endroits où tu vas identifier pour certains des zones de production, d'autres des zones de repos. Donc là, il y a des sangliers dans le coin. Il y a même des belles petites familles de sangliers. On a mis des caméras la nuit.
Ah oui?
Et il y a des jolies familles, ouais. C'est assez drôle.
J'ai une question là qui, après avoir traversé avec toi une partie de cette forêt, de votre forêt, dont vous êtes les gardiens, c'était très présent dans tes mots sur l'émerveillement. Et donc, en venant ici régulièrement, tu vas nous dire, en tout cas, qu'est-ce qu'il y a eu comme découverte ou comme émerveillement que tu étais à milieu d'imaginer? Les choses vraiment que vous avez, que vous n'imaginiez pas en arrivant ici.
Je pense là, c'est plutôt un sentiment que j'imaginais pas. Quand j'arrive ici, j'ai l'impression que c'est bête, hein, mais mon corps s'ouvre. Le corps s'ouvre. Je me sens bien. Je me sens apaisée. Ça, je n'imaginais pas que ça serait à ce point-là et que ça serait toujours. Enfin, tu vois, il y a pas une fois où je viens où j'ai pas ce sentiment.
Oui, ça s'installe, c'est récurrent.
Ouais, c'est récurrent.
C'est même prégnant ou permanent, en fait.
Ouais. Et on oublie ça quand on vit en ville, quand on a un travail très prenant. Moi, je suis hyper engagée dans mon travail, mes équipes aussi. Et en fait, on travaille pour les forêts, mais parfois, on peut avoir tendance à perdre le contact parce qu'on est pris dans un rythme où on lève des fonds, on monte des projets. C'est compliqué, on fait beaucoup de travail de connexion avec les communautés, les autorités locales, on va travailler les essences en fonction des sols, on va travailler du développement économique, la sensibilisation à l'environnement dans les écoles, enfin, il y a beaucoup de choses à faire quand tu veux restaurer un écosystème, et du coup ça nous engage énormément, donc quand je reviens ici, je me dis bah, voilà pourquoi aussi je le fais, c'est pour que les gens avec qu'on accompagne puissent se sentir bien comme ça dans leur territoire.
Et autre question, bah, c'est un petit peu lié à ça, mais c'est qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent, aux autres, aux gens en général, que ce soit des gens des villes ou des gens de la ruralité, hein, comme on dit. Voilà.
Ben déjà, j'espère qu'ils vont bien, parce que ce monde est quand même un peu fou, que ça se tend beaucoup autour de nous. On voit les extrêmes qui reviennent au pouvoir, on voit des tensions très fortes dans l'agriculture sur des façons de faire. On s'écharpe beaucoup en ce moment. Les médias sont que sur de la rapidité, sur de la critique, du temps chaud. On prend plus le temps de ce temps long. On prend plus le temps de se poser la question de notre raison d'être, raison de vivre. On prend beaucoup moins le temps d'être ensemble, de se questionner sur c'est quoi le monde qu'on a envie d'avoir ensemble. Et on prend moins le temps d'agir pour ce monde. On va peut-être dans la rue, on va, tu vois, sur des temps courts. La question pour moi, elle doit être beaucoup plus profonde pour qu'on aille bien et pour que tous ceux qui nous écoutent aillent bien. Je pense que si je dois dire quelque chose, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller bien? Comment est-ce que vous avez envie de faire pour aller bien? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller bien? Et je crois que la forêt est une réelle réponse. Vivre en forêt, soutenir la forêt, restaurer les forêts, conserver les forêts, c'est au cœur des enjeux du monde. 80% de la biodiversité terrestre vit dans les forêts, et notamment dans les forêts tropicales. C'est le deuxième puits de carbone. T'as des millions de personnes qui vont chercher leurs médicaments, leur nourriture dans les forêts. C'est au cœur de tous ces enjeux auxquels on est confronté, tous les défis à venir, la forêt est une partie de la réponse. Et donc du coup, j'ai vraiment envie que chacun, chacune, on se sente forêt et on ait envie de la soutenir, on a envie de la voir revivre, que ce soit ici en France, à travers la protection de nos forêts, une façon différente de les gérer. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir de revenus, mais on peut très très bien avoir des bons revenus en gérant une forêt durablement. Donc il y a plein de choses à faire ici en France, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire à l'international. Et l'impact sera peut-être démultiplié à l'international. Même je crois qu'il sera démultiplié parce qu'on est sur des forêts qui sont encore primaires, qui hébergent une biodiversité exceptionnelle, avec des gens qui sont dans des situations de vulnérabilité qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit ici en termes de pauvreté et de changement climatique. Donc il faut aussi qu'on les soutienne. Nous, on a des gens qui nous font des dons, on a des gens qui partent en volontariat pour nous, on a du mécénat de compétences, mais il y a plein d'autres associations qui ont aussi ces besoins-là. Et je pense qu'il faut vraiment les soutenir et pas juste une fois de temps en temps. Je pense qu'il faut que ça devienne quotidien et qu'on pousse nos politiques à ce que ça devienne aussi quotidien.
Donc merci pour ces paroles, Amandine. Donc ce que j'ai pu entendre, c'est la dimension un peu... l'expérience du temps qu'amène la forêt est quelque part subversive par rapport au temps social qu'on peut nous dicter.
Ouais.
Ça, c'est une première chose. Et la seconde, en tout cas, tu l'as vraiment dit avec passion, c'est l'engagement. C'est-à-dire que c'est pas, on pourrait évoquer une expression qui est l'engagement de chaque instant, mais c'est en fait l'engagement dans chaque lieu et à chaque endroit.
Exactement. Et pendant tout notre parcours de vie. Et des engagements très différents. Tu vois, mon début de vie professionnelle, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'insertion sociale, sur l'emploi, sur la santé, sur l'alimentation. J'étais beaucoup dans des bidonvilles. Et j'avais l'impression d'être au bon endroit.
Oui, donc dans ces endroits-là, très difficiles pour les humains. Tu as commencé à penser différemment.
Mais en fait, je voyais dans les bidonvilles beaucoup d'afflux de population parce qu'ils n'arrivaient plus à s'alimenter localement, parce qu'il y avait des questions de foncier, parce qu'il y avait eu des enjeux de pollution. Et donc, en fait, on faisait grossir la misère humaine parce qu'on n'avait pas travaillé sur les racines qui sont la protection de la planète, hein, la conservation des écosystèmes. Donc j'ai vraiment eu envie de travailler en revenant aux racines.
Donc là, vraiment, on a l'eau qui vient partout, là, hein,
ouais.
Sous nos pieds, au-dessus de nous et devant nous.
Et ici, il y a 3 mois, donc là, on est face à un petit étang, un demi-hectare. Il y a 3 mois, il n'y avait plus rien.
C'était à sec ?
C'était complètement à sec. Les hérons, il y avait une petite mare qui restait et les hérons venaient manger les derniers poissons. Donc c'est bien, hein, ça nourrit la biodiversité. Mais c'est triste, ça, c'était extrêmement triste, c'était jamais arrivé. Et c'est exactement le type d'endroit qui peut disparaître dans les prochaines décennies en termes de zones humides.
Alors par rapport aux forêts, oui on va rentrer, mais dernière question, par rapport aux forêts, par rapport... à Nous Sommes Forêt, par rapport à ce choix ici de s'impliquer, de s'engager, de devenir gardien d'une forêt en France. Quel vœu, quel souhait pourrais-tu formuler pour nos auditeurs et pour nos auditrices et nos auditeurs?
Ben, Mon vœu, ça serait que chacun trouve sa forêt extérieure et intérieure. Une forêt, c'est pas forcément que des arbres qui font société. C'est aussi un lieu de ressourcement, un lieu d'apaisement. Et je suis persuadée qu'on a besoin de se sentir bien et serein pour pouvoir agir. Si on est toujours dans des questionnements, des incertitudes,
chahuté, bousculé.
Ouais, on n'arrivera pas à vraiment s'ouvrir à l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on n'a pas besoin de construire des murs, on n'a pas besoin de créer de conflits, on a besoin de se rassembler, de coopérer, de collaborer. C'est ce qu'on essaye de faire sur chacun de nos projets. Et c'est ce qu'on... Enfin, mon vœu, c'est qu'on arrive tous à le faire autour de nous.
Merci, merci Amandine de nous avoir accueillis dans cette forêt, dans ta forêt.
Elle est bien grande, tu vas être trompée.
Il faudrait que tu me fasses un dernier son.
Ouais.
Est-ce que tu peux me faire un « Nous sommes forêt » Enfin, tu vois, parce que ouais. C'est un peu la signature qu'on fait à la fin de chaque épisode.
Nous sommes forêt.
Que faire maintenant? Vous pouvez avant tout décider de rejoindre et de participer à l'association ou au projet de la personnalité que nous venons de rencontrer. Leurs coordonnées sont incluses dans le descriptif de cet épisode. Vous pouvez également vous abonner pour nous soutenir et partager sur vos réseaux les témoignages de Nous sommes forêts. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous donner des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et favoriser ainsi notre audience. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de... Nous sommes forêts.
Voilà, c'était un podcast réalisé par Almas Vaglio et Charles-Maxence Laillé. Vous pouvez les soutenir, rejoindre leur association ou la personnalité et le projet que vous avez découvert en écoutant Nous sommes forêts. Vous pouvez aussi partager sur vos réseaux les témoignages de Nous sommes forêts. C'était Arcania, une émission de Jacques Lavergne, avec à la réalisation Grégoire Nachès, que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Arcania. Et surtout, ne lâchez rien. Belle journée à toutes et à tous.